monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Et avec moi dans le studio, Khadidia Viviane Doumbia, experte en genre et éducation, danseuse professionnelle, féministe et professeure de français. Un grand merci Khadidia d'être avec nous.
Oh, je vous en prie.
Alors, les femmes et le stress, ou faut-il dire le stress et les femmes? Ça, c'est la bonne question. Selon de nombreuses études, les femmes sont plus exposées aux assauts du stress que les hommes. Travail, éducation des enfants, tâches ménagères, gestion de la vie familiale, etc., etc., etc. Et la femme moderne est généralement débordée, surmenée. Comment optimiser une vie bien remplie 7 jours sur 7 sans stresser? Ce sera l'objet de notre discussion, Khadidia. Mais tout d'abord, je voudrais faire un portrait de vous. Vous avez eu la médaille d'honneur à la World Dance Training à 19 ans en danse, hein, parce que vous êtes une danseuse professionnelle. Ouais. Vous avez étudié avec, et pas avec n'importe qui, avec Maida Withers, ouais, et avec Nancy Johnson. Ouais. Vous enseignez la danse. Vous avez ouvert une école de danse à Abidjan, Côte d'Ivoire,
tout à fait,
votre pays, avec la France. Hein. Mm-hmm. Vous avez travaillé et étudié avec Laurie Belilov, la compagnie, c'est pas n'importe qui non plus, la compagnie Isadora Duncan à New York. Et vous avez fondé la compagnie Sakololai, c'est ça?
C'est ça, oui.
Qu'en fait, vous avez déplacé au Mali, mm-hmm, et en Côte d'Ivoire, c'est, yes, ça. Hein. Vous avez une formation aussi à l'Académie de danse royale à Londres.
Ouais.
Un beau résumé. Vous avez été chorégraphe du Ballet National du Mali, ouais, membre du comité exécutif du Conseil international de la danse à l'UNESCO et membre du Congrès sur la recherche en danse.
Tout à fait.
Diplômée en business et administration des affaires, donc autre domaine d'expertise, et vous avez été présidente de l'Association internationale des femmes de Côte d'Ivoire. J'ai pas fini, j'en ai mis encore, mais j'ai quand même raccourci. Non, parce que je trouve que vous collez vraiment bien au sujet. Mmh. Vous avez travaillé pour le Réseau National des Femmes à Amnesty International à Abidjan, et l'ONU, et vous donnez des conférences au niveau international, et notamment dans diverses institutions prestigieuses telles que les universités de Yale et Harvard. Et vous êtes donc professeur de français.
Tout à fait.
Et dans tout ça, le stress, est-ce que vous connaissez? Voilà, je vais commencer par cette question, le stress.
En fait, on vit dans un monde stressant, mmh, et on s'adapte et on ne se rend pas forcément compte qu'on est stressé. Et on vit aussi dans un monde où il faut toujours faire quelque chose, il faut toujours avancer. Et si de temps en temps nous n'écoutons pas notre corps ou notre cerveau qui, ouais, nous envoie des signes, oui, pour dire il faut ralentir un peu, ça peut être catastrophique. Donc il faut se connaître et savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter un peu pour poser, quoi.
Mmh. Mmh. Alors sur les moteurs de recherche Google, mmh, j'ai tapé les femmes et le stress. Et j'ai eu plus de 7 millions de réponses en 85 secondes, donc on voit que c'est un sujet d'actualité. Mais on en rit, mais en fait, c'est quand même dramatique parce que le stress a des conséquences quand même qui peuvent être assez graves, assez fâcheuses, quoi,
tout
en
fait.
Fait
oui.
Et vous dites, vous écoutez votre corps, vous pratiquez la danse, c'est un domaine quand même. Mm-hmm. On est stressé quand on est danseuse ou pas? J'imagine, oui, pour,
oui,
des représentations ou autre.
On est stressé, quel que soit le domaine d'activité, il, ouais, y a toujours du stress. Donc,
Mais en plus, il y a le stress du spectacle, quoi.
Exactement.
Il faut pas se tromper.
Voilà, il faut que ça réussisse, il faut que les gens aiment, on a peur des critiques. Si on a une école, il faut que les parents soient contents, ils ont payé toute l'année, donc c'est le spectacle de fin d'année. Il y a du stress tout le temps, à tous les niveaux.
Ouais.
Donc c'est le système, quoi, dans lequel on vit, et il faut apprendre à, comme disent les Américains, self-care. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut arrêter pour souffler un peu, pour recharger un peu, quoi.
Et faut-il qu'on puisse arrêter parfois?
On peut ralentir.
Ralentir, oui.
Voilà, on peut ralentir,
ouais,
peut-être pas arrêter, mais ralentir, c'est-à-dire
changer de comportement.
Voilà,
ouais,
exactement.
Mmh, mmh.
dans la presse.
Kadidia, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le 14 septembre, les Tunisiennes de confession musulmane peuvent se marier dans leur pays avec des non-musulmans.
Tout à fait, j'ai vu ça.
Vous avez suivi ça. Alors, tous les textes liés à l'interdiction du mariage de la Tunisienne avec un étranger ont été annulés. Félicitations aux femmes de Tunisie, avait déclaré sur Facebook la porte-parole de la présidente Saïda Garrache. Alors, le 13 août, le président Béji Caïd Essebsi avait annoncé avoir demandé au gouvernement de retirer une circulaire datant de 73. C'est pas la seule, il y en a plusieurs, empêchant le mariage des Tunisiennes musulmanes avec des non-musulmans. Et bon, on sait que la société civile, dont le collectif pour les libertés individuelles, a longuement combattu cette interdiction. Et une plainte avait été déposée auprès du tribunal administratif. Alors, si elles voulaient que leur mariage soit reconnu, les Tunisiennes épousant des non-musulmans devaient fournir le certificat de conversion à l'islam de leur futur mari. Kadidia Viviane Doumbia, vous avez dit tout à l'heure, pour éviter le stress, ou le prévenir, ou le ralentir, il faut écouter son corps. Mais vous, alors, vous faites comment? Parce que vous avez l'air vraiment paisible, vous avez l'air en paix. Ça, ce sera une autre question, le stress, est-ce que ça se voit?
Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des moments, par exemple, je programme ma semaine ou mes semaines en avance. Et je vous donne l'exemple d'aujourd'hui.
Oui.
J'avais un training, une formation ce matin.
Oui.
Ensuite, je devais aller dans une ONG. Ensuite, je devais être avec vous. Et tout à l'heure, j'ai une autre réunion.
Ça fait déjà bien chargé pour
vous. Voilà. Donc, j'ai regardé tout ça et puis je me suis dit non, c'est pas possible.
Ça fait beaucoup.
J'ai la possibilité d'avoir d'avoir cette formation une autre fois. Donc, je l'ai éliminé pour pouvoir commencer un peu plus tard dans la journée. C'est-à-dire qu'il y a des choix à faire quand on le peut. Il y a des jours où on ne peut pas, il faut tout faire. Mais là, j'avais ce choix.
Ouais.
Et je me suis dit, bon, pour ma stabilité mentale.
Bien sûr, ouais, pour ne pas courir dans le métro, les bus, etc.
Voilà.
Parce que ça aussi, c'est extrêmement stressant.
Voilà, parce que dans les grandes villes, le conduire est pénible. Donc, ce sont les transports publics, quoi.
Ouais. Donc, ouais. Et est-ce que selon vous, les femmes en Afrique sont plus stressées que les femmes en Occident? Est-ce qu'il y a différentes formes de stress, on pourrait dire, par rapport à leur environnement, les responsabilités par exemple? Est-ce qu'elles sont les mêmes, si on peut schématiser?
La vie étant différente, les responsabilités sont différentes. Il y a du stress partout.
Oui, ça c'est sûr.
Le stress, il y a certains stress qui sont les mêmes, d'autres qui sont différents. Je veux dire, s'occuper des enfants, de la maison et tout. Ce sont les mêmes stress, à la différence qu'en Afrique, on peut avoir de l'aide, on peut avoir un employé ou une cousine ou qui aide, alors qu'ici, il faut tout faire. Donc, mais le stress reste entier, parce que, bon, en Afrique aussi, on a la famille qui vient déposer les neveux, il faut s'en occuper.
La difficulté de la vie aussi.
Voilà,
hein.
Donc, il y a des stress partout. Selon la communauté dans laquelle on vit, le pays dans lequel on vit, on n'échappe pas.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle forme de stress chez les femmes, je dirais, justement, la femme moderne, la femme active? Bon, c'est pas nouveau non plus, hein, mais quand même, maintenant, c'est vraiment devenu une généralité. Pour une certaine génération, la nôtre, par exemple.
Oui, parce que il y a la compétition dans le travail. Il faut, et quand on est une femme, il faut toujours prouver. Ça n'a pas changé. Donc,
stressant.
Il faut toujours prouver parce qu'on est une femme.
On nous surveille de près aussi.
Voilà, donc il faut toujours en faire plus. Il faut courir et puis il faut être un peu partout. Et puis il y a l'éducation des enfants. Et puis il faut qu'ils réussissent. Et puis les enfants sont exposés à tellement de choses maintenant. Donc on stresse même quand il n'y a rien parce qu'on se dit oh là là, qu'est-ce qui va arriver. Et puis bon, pour celles qui ont des maris paresseux, il faut tout faire parce qu'ils bougent pas. Donc oui, parce que c'est une réalité. Ouais. Donc il y a des femmes qui sont même dépressives sans le savoir. Elles sont épuisées, elles en ont marre de tout. Bon, elles avancent parce qu'il y a des enfants, elles avancent parce qu'il faut avancer, elles avancent parce qu'elles sont dans une communauté, mais elles ne sont pas contentes de leur vie.
Parole de femme.
Alors, les femmes en République du Congo ont réalisé une percée dans les postes électifs. C'est un autre sujet, hein. Notamment grâce à la sensibilisation sur la loi accordant aux femmes un quota de 30% sur les listes électorales. Voici un reportage de Ngwelan Goussou à Brazzaville.
Avec 17 femmes élues députées, alors qu'elles n'étaient que 12 à la dernière législature, la participation des Congolaises dans le pôle de décision progresse. Marie-Thérèse Bouvet, élue au Sénat, estime que le combat pour les droits politiques de la femme congolaise est loin d'être terminé.
13 déjà c'est bon, parce qu'au départ on n'était que 12. Le combat on l'a toujours mené, hein, le combat d'être représenté partout. On ne va pas baisser les bras, on continuera à mener le combat.
Deux femmes ont aujourd'hui pris la tête des conseils départementaux dans le pays. La ministre de la promotion de la femme, Nefer Inès Ingani, fait un constat mitigé.
Ici est de souligner que l'on enregistre une légère progression du nombre de femmes élues tant au Sénat, à l'Assemblée nationale qu'aux différents conseils départementaux et municipaux. Les résultats, bien que positifs dans l'ensemble, montrent que de nombreux efforts restent encore à accomplir en vue d'une représentativité équilibrée homme-femme dans les instances de prise de décision, surtout dans le domaine électif, où le Congo occupe jusque-là la 172e place dans le classement mondial de l'Union interparlementaire.
Plutôt optimiste, Didier Clotaire-Boutindi, chef d'une association politique, appelle les femmes à se lever pour leurs droits.
Écoutez, mais si la loi donne 30% aux femmes, ça aime les femmes de se lever, de dire que non, nous, on doit respecter quand même la loi. Hein, donc, ils doivent aussi occuper leurs 30%. Donc, il faut plus attendre que ce soit les femmes qui ne parlaient pas hier. Il faut que les femmes parlent aujourd'hui. Hein. On a besoin de la voix de la femme. La femme doit parler. Hein. La femme doit prendre des décisions elle-même.
Avec 246 femmes élues dans les conseils, la participation féminine dans la sphère de décision commence à prendre corps au Congo. Ngwelan Goussou, Brazzaville, VO Afrique.
Kadidia Viviane Doubia, on a parlé tout à l'heure, on a dit, faut-il encore le savoir qu'on est stressé? En général, je pense qu'on le sait, mais peut-être pas quand on est très jeune finalement. Il faut une certaine expérience pour savoir que vraiment on est gravement stressé. Et les signes, même les signes avant-coureurs.
Mais en général, c'est beaucoup de fatigue ou le manque de sommeil ou on dort trop. Moi, je prends le cas de mon fils. Quand je l'appelle et qu'il a trop dormi, je sais qu'il y a un problème. Je lui dis, ah, ok, quel est le problème? Parlons.
Donc, votre fils a 24 ans, il est déjà très stressé aussi.
Oui, oui. Les jeunes sont stressés, mais à un point inimaginable.
C'est nous qui les stressons un peu aussi, peut-être?
Oui, un peu. Donc, ils essaient de cacher pour nous éviter d'être tendus.
Encore plus stressés.
Voilà. Et en plus, la vie, bon, il faut avoir un boulot, il faut chercher du travail, oui. Il faut bien se soigner les études. Faut être accepté dans cette université, pas dans l'autre. Ils sont constamment sous pression.
Ouais.
Nous, on était sous pression, mais c'était pas comme ça.
Non.
C'est difficile de surmonter à certains moments, mais il faut faire avec et puis vivre. Sinon, bon, il faut demander de l'aide.
Mmh.
Voilà. En Afrique, on a, l'avantage, c'est qu'on a toujours quelqu'un à qui parler, donc ça déstresse un tout petit peu, quoi.
Mmh.
Dans les pays comme aux États-Unis où chacun est dans son coin. Pas aller voir le
C'est pas facile de demander de l'aide, ouais.
Voilà.
Si jeunesse pouvait.
Alors, selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique du Bénin, le taux de sous-emploi des jeunes dans ce pays est passé de 50% en 2011 à plus de 70% de nos jours. Et ce, malgré la création de structures chargées d'accompagner la jeunesse dans la recherche d'un travail, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé, à travers ce reportage. On l'écoute.
Selon les estimations de l'INSAE sur le marché de l'emploi, le Bénin dispose de plus de 2 750 000 jeunes qui sont au chômage. Eulalie est une jeune béninoise. Avec un poche master en audit et gestion des entreprises depuis 3 ans, elle n'a toujours pas un emploi fixe.
Vraiment, le recrutement au Bénin, c'est pas du tout encourageant. On a le diplôme, mais quand tu n'as pas des moyens, quand tu n'as pas des connaissances, tu ne peux pas avoir d'emploi au Bénin.
Lors du lancement du document de la politique nationale sur l'emploi, le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales a donné quelques intentions du gouvernement. Adika Toumatis.
Les investissements massifs programmés dans le programme d'action du gouvernement, le partenariat public-privé et les projets de travaux à haute intensité de main d'œuvre, les programmes de préinsertion ou d'auto-emploi sont à considérer aussi bien dans leur mise en œuvre que leur suivi évaluation.
Même ainsi, les jeunes pensent qu'il y a plus de théorie que de pratique sur la question du chômage au Bénin. C'est le cas de Brice, ingénieur en télécommunication, qui en attendant de trouver affaire est conducteur du taxi-moto.
Rien n'a encore bougé. Les jeunes continuent toujours d'attendre que le nouveau gouvernement fasse quelque chose en leur faveur. Mais il reste encore du pain sur la planche.
Il serait nécessaire que le gouvernement se penche sur les questions liées à la jeunesse, confie Adrien, père de famille et puissant devant le chômage de ses trois enfants pourtant grands diplômés.
Que le gouvernement actuel ait vraiment un regard sur les jeunes, sur l'emploi des jeunes, afin que ceux qui ont les diplômes, que ce soit académiques ou professionnels, les hommes de métier, tous puissent trouver affaire et que très tôt d'autres concours soient organisés pour permettre aux jeunes d'avoir un emploi.
Le gouvernement actuel a fait la promesse en tout cas de créer 500 000 emplois d'ici 2021. De Cotonou, Ginette Le Adandé pour VOA Afrique.
Mais oui, et si la jeunesse pouvait?
Écoutez Le Monde au féminin avec Khadidia Viviane Doumbia, experte oui, en genre et éducation. Je savais que ça vous intéresserait. Vous en parliez justement, vous voyez, oui. La jeunesse, stressée la jeunesse, hein, et en Afrique.
Oui, stressée parce qu'on a trop de jeunes. Les pays africains, 70% de la population est jeune. Et en plus maintenant, cette frange de la population est éduquée. Le problème est qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que nos populations attendent toujours que le gouvernement fasse tout. Un gouvernement ne peut pas créer tous les emplois. Mais le deuxième pan aussi de ce problème est que il faut injecter suffisamment d'argent dans l'économie pour que les petites entreprises embauchent. Donc, il faut trouver un juste milieu, quoi, un équilibre dans ce problème. Sinon, quand on entend les Africains, le gouvernement, il faut que les gouvernements aussi soient honnêtes et disent qu'ils peuvent pas créer tous les emplois. Mais par contre, ils peuvent mettre les structures en place, les financements en place pour permettre à ceux qui veulent créer leurs propres entreprises de pouvoir le faire et aux entreprises qui sont en place de pouvoir embaucher.
Bon, c'est-à-dire qu'on a souvent le sentiment quand même que beaucoup de gouvernements font des choses, effectivement, font des projets pour lutter contre le chômage de la jeunesse, mais on a très souvent le sentiment que ce sont des petits projets, c'est-à-dire que bon, s'il y a, je sais pas, 500, 600 personnes qui en bénéficient, c'est pas le nombre de milliers de personnes ou de millions de personnes dont on parle.
C'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit ponctuel. C'est-à-dire que ce sont des projets, même s'ils sont petits, ça doit être en continu, quoi, pour pouvoir toucher tout le monde.
Khadidia, vous avez parlé tout à l'heure le fait de demander du soutien. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose... Ben là, on va parler de l'Occident. C'est quelque chose qu'on ne sait plus faire en Occident. Quand on se trouve dans une telle situation, une femme stressée, surtout une femme, je crois, elle va aller moins facilement demander de l'aide à sa famille, à ses proches, ou etc. C'est ça, non?
En fait, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas aider, mais le rythme de vie est tel que non seulement tout le monde est stressé, mais ils ne trouvent pas le temps. Il faut trouver quelqu'un qui ait le temps de parler au téléphone 30 minutes.
Aussi,
voilà, je crois que c'est le temps qui manque. Et c'est le temps qu'on a encore.
Mais ça, en plus, c'est une réalité.
Oui, c'est le temps.
Quand on travaille à ce rythme-là, il est vrai qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Et c'est triste, non?
Oui, et c'est pour ça que quand le week-end arrive... Moi, je connais une dame, elle a toujours des projets à la maison, il faut faire ceci. Il faut que de temps en temps, il faut tout lâcher et se reposer, aller au cinéma ou aller manger une glace, souffler un peu pour pouvoir revenir et pouvoir faire tout en une heure au lieu de cinq heures de temps.
Voilà. Et mais déjà, ça, c'est un bon test. Bien que stressé, on est organisé.
Tout à fait.
C'est de se dire, alors qu'on avait prévu, non, je lâche et j'y vais.
Voilà,
et ça, c'est difficile.
C'est très difficile, mais il faut apprendre à le faire pour ne pas, excusez-moi, péter un câble.
Entre parenthèses.
Des dizaines de milliers de tonnes de vêtements d'occasion sont acheminées annuellement de l'Europe vers le Sénégal, notamment. La plupart sont revendus dans le quartier Colobane à Dakar, qui accueille le plus grand marché de fripes du pays. Voici un reportage de Sédina Abagay dans la capitale sénégalaise.
Communément appelés fripes, ces vêtements d'occasion sont pourtant acquis à prix d'or par les importateurs sénégalais. Ibrolo, ancien immigré en Italie, explique leur cheminement et les péripéties qui l'entourent.
Si vous devez boire 40 pieds, il faut que j'aille.
Pour un conteneur de 40 pieds, nous payons 4 700 000 francs ou 5 millions pour les frais de douane. Nous achetons les conteneurs de vêtements à 27 500 ou 30 000 euros, ce qui fait environ 19 millions de nos francs si on y rajoute les 5 millions de taxes. La facture globale grimpe à presque 25 millions. C'est très compliqué, d'autant qu'on livre la marchandise à crédit en attendant les remboursements des marchands au détail.
Fallou Sek estime que le business de la fripe arrange toutes les parties prenantes car chacun y trouve son compte.
Les prix varient entre 25 000 et 85 000 francs CFA. Avec 1 500, un père de famille peut acheter des habits pour ses 5 gosses. Alors que si c'était des vêtements neufs, il n'aurait même pas pu en habiller un. Certes, l'idéal serait d'avoir des vêtements neufs, mais tout le monde ne peut pas se payer celui.
Des vêtements neufs, Aïssa Touba aurait aimé en avoir, mais avec son faible pouvoir d'achat, elle préfère se rabattre sur les vêtements d'occasion.
Ça fait plusieurs années que je viens à Colobane pour acheter des vêtements, car pour moi, c'est la même chose que les boutiques de prêt-à-porter. Les vêtements d'occasion sont une aubaine pour nous, car c'est très abordable. Après les avoir achetés, on désinfecte les vêtements, puis on amène ça au lavage avant de les porter. On prend ces précautions pour éviter les maladies dermatologiques. Sinon, c'est moins cher et ça nous permet de nous habiller convenablement.
À Dakar, le nom de Colobane est systématiquement lié à la vente de fripes. Au fil des années, ce quartier populaire de la capitale sénégalaise est devenu la plaque tournante de la vente de vêtements d'occasion au grand bonheur d'une population qui n'a pas toujours les moyens de s'acheter du neuf. À Dakar, Sédina Abagay pour VOA Afrique.
Didier, à propos du stress, est-ce que on n'en demande pas trop finalement, ou est-ce que la femme elle-même ne s'en demande pas trop? Parce que on a le sentiment finalement peut-être que beaucoup de femmes sont un peu perfectionnistes, ont besoin de répondre à toutes les normes, les exigences, et on a toujours cette inquiétude de ne pas y arriver. Mais si on n'y arrive pas, c'est peut-être pas grave, non?
Non, c'est pas grave. C'est-à-dire que la société nous impose ce stress. Nous l'imposons également. Mm-hmm. Et il faut quand même pas oublier que si la famille tourne, c'est quand même la mère qui fait tourner la famille. C'est une réalité. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas, mais c'est la réalité.
Donc il faut la soutenir.
Voilà, il faut la soutenir et il faut, si elle est mariée, que le mari apprécie ce qu'elle fait et soutienne quand il peut. Et si ce n'est pas le cas, que autour, que ce soit la famille, les amis, puissent être disponibles quand elle en a besoin. C'est-à-dire qu'on a perdu ce côté-là dans la société, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que le cercle de soutien, d'amis ou de famille n'existe plus. On a l'impression qu'il existe toujours, mais en fait, non.
Merci beaucoup, Kadidia, Viviane Doumbia. Un grand merci à Georges Léonard Sagnot, à la technique. C'était Le Monde au féminin. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Arrête.